ressuscité. À toi la victoire.
Bonjour à tous, vous qui êtes encore à la maison pour notre culte. Alors que quelques églises ont commencé à rouvrir leurs portes avec des conditions strictes, port du masque, distanciation, inscription et liste de participants, pas bouger, sainte scène adaptée, le consistoire de Blény a décidé de ne pas encore donner la possibilité de nous réunir dans notre local, hélas trop exigu pour des conditions optimales. C'est pourquoi les cultes enregistrés continueront probablement encore le temps des vacances. J'espère que vous vous portez bien. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de notre Seigneur, en ce moment mis à part pour lui rendre culte. Prions. Père, je me sens parfois bien seul, sur cette terre où tout est sans dessus-dessous. Le monde me fait peur, tant son incohérence et sa tyrannie sont parfois loin de tes pensées d'amour. Mais en toi, je mets mon espérance, parce que dès le premier verset de la Bible, il est écrit que la terre était informe et vide, et tu as dit, et la lumière a jailli. Peut-être que mes frères, mes sœurs qui m'écoutent sont aussi découragés, désemparés, perturbés, attristés. Que les quelques minutes que nous allons passer ensemble en esprit nous encouragent à voir le Dieu grand et puissant, dont la parole seule est créatrice au centre du néant. Et quand tout est apparemment sans espoir, tu nous envoies ton Fils Jésus, qui n'hésite pas à tout donner pour nous libérer et nous guider. Que la gloire te revienne, ô notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, du verset 5 au verset 8. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Jésus vient de parler sur la montagne, il vient de dévoiler les béatitudes, il vient de longuement discourir devant une grande foule. S'il avait été un simple homme, il aurait pu avoir la grosse tête et se dire qu'il avait beaucoup d'admiratrices et d'admirateurs. Il aurait pu se pavaner et même signer des autographes. Mais rien n'y fait. Jésus, le Fils de Dieu, se laisse interpeller, d'abord par un repoussé de la vie. Au début du chapitre 8, il nous est dit qu'il guérit un lépreux. Et il se laisse ensuite arrêter par un centurion, un des chefs de l'armée d'occupation de son pays, en lequel il discerne une foi exceptionnelle. Jésus écoute, éprouve des sentiments et répond à la prière d'un dirigeant pour son serviteur. Comme je l'ai dit en introduction de ce culte, nous sommes restés à la maison, un peu comme ce serviteur, un peu paralysé par ce danger extérieur, et certainement souffrant de solitude, de découragement, d'incompréhension peut-être. Encore aujourd'hui, nous pouvons faire cette prière. Jésus dit seulement un mot, et la guérison jaillira. Que nous puissions être richement bénis en partageant ce culte et en remettant tout entre ses mains. Car un seul mot de Jésus peut guérir. Seigneur, nous voulons nous mettre à tes pieds pour écouter ce que tu as encore à nous dire au travers du partage que Daniel nous a préparé. Qu'il soit ton porte-parole, afin que nous soyons guidés vers une mise en pratique efficace pour nos vies. Mais encore une fois, qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.
Chers amis, quel bonheur de pouvoir partager la parole de Dieu encore aujourd'hui. Les circonstances nous obligeant d'être éloignés les uns des autres, mais nous sommes si proches en esprit, car l'Esprit de Dieu nous rassemble. Soyez bénis par le Seigneur en cet instant. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, disait l'apôtre Paul aux Philippiens, cela se trouve dans l'Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 4. Quel programme nous propose l'apôtre Paul ? Nous réjouir constamment. Mais y a-t-il toujours des sujets de réjouissance ? Vous allez me dire, pour le moment, ce n'est pas toujours le cas. Cette période que nous vivons n'est sûrement pas toujours réjouissante. Comment cette pandémie va-t-elle évoluer? Nul ne peut le dire. Et je suis d'accord avec vous, ce n'est nullement réjouissant. Et pourtant, si nous faisons attention, il y en a des sujets de réjouissance dans notre vie. Il nous suffit d'ouvrir les yeux. Toutes les petites bénédictions que nous recevons de la part de notre Dieu ne sont-elles pas des sujets de réjouissance? Peut-être avons-nous perdu la faculté de nous réjouir. Sommes-nous frustrés par toutes sortes de blessures? Je désire aujourd'hui aborder brièvement trois sujets de réjouissance en tant que chrétien. Il y en a plusieurs autres, mais je pense que si Jésus les a énoncés, il y a sûrement une raison importante pour nous. Et si l'évangéliste Luc désirait sûrement nous interpeller de la sorte. Nous trouvons cela dans l'évangile de Luc au chapitre 15. et je désire méditer brièvement sur les trois paraboles de Jésus, chacune ayant une signification particulière pour l'Église du Seigneur. Car aujourd'hui, je désire spécialement m'adresser à l'Église du Seigneur, pas spécialement à la communauté de Blenier, mais l'Église, avec un grand E, répartie partout dans ce monde. Et Internet est le meilleur moyen mis à notre disposition pour atteindre le monde entier. Nous lisons ceci dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15e, à partir du verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les autres 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Nous connaissons tous la parabole de la brebis perdue. Je ne vous apprendrai rien avec cette histoire. Et pourtant, il y a quelques enseignements extraordinaires à en retirer. N'avons-nous jamais pensé que les 99 brebis pouvaient représenter l'Église dans son confort, heureuse d'appartenir au Seigneur, chantant des cantiques, louant le Seigneur, bienheureuse dans son cocon, à l'abri des dangers de ce monde, car elle est gardée par le bon berger, c'est-à-dire par Jésus. L'Église, malheureusement, s'installe trop vite dans le confort du salut et oublie que le monde qui nous entoure court à sa perte, entrant dans l'éternité sans connaître le salut qu'offre Jésus-Christ. Nous sommes tellement heureux de lui appartenir. Avons-nous oublié que si nous sommes enfants de Dieu maintenant, il a fallu que quelqu'un vienne à notre rencontre pour nous parler de cet amour de Dieu. Et Jésus, le bon berger, dans son amour, part à la recherche de celui qui n'a pas le bonheur de lui appartenir. Et il cherche. Il veut que tout homme vienne à la connaissance de son amour et de son pardon. Sommes-nous insensibles face à ce monde qui se perd? Vivons-nous égoïstement, repliés sur nous-mêmes? Pouvons-nous imaginer que des milliards de personnes vont perdre leur âme pour l'éternité? Dans cette parabole, nous voyons le mal que le berger se donne pour rechercher cette brebis perdue. Perdue, blessée, ayant besoin de secours. Dieu aime les perdus. Aimons-nous les perdus? Avons-nous une pensée pour eux? Dieu nous a aimés, il nous a cherchés et trouvés, et s'est réjoui quand il nous a trouvés. Il a pansé nos blessures, nous a mis à l'abri, et les frères et sœurs se sont réjouis de nous voir recevoir le salut de Dieu. Le bon berger dit « Réjouissez-vous, car j'ai retrouvé la brebis perdue. » Réjouissez-vous, je le répète, « Réjouissez-vous, disait l'apôtre Paul. Réjouissons-nous quand nous voyons des perdus venir à la conversion. » C'est un ordre de Dieu. Que nos cœurs soient émus de compassion tout comme Jésus l'était, ne pouvant rester insensibles à la souffrance humaine. Il serait triste pour nous si nous avons perdu notre sensibilité spirituelle face à ce monde qui se perd sans Dieu. Frères et sœurs, apprenons à nouveau à souffrir pour ce monde qui va à sa perte, sans Dieu et sans espérance. Et réjouissons-nous quand nous voyons un pécheur venir à la repentance. Prions afin que nos communautés respectives soit un havre de paix et de secours pour les perdus. Sachons les accueillir avec amour et joie. Réjouissons-nous avec les anges du ciel quand un perdu accepte l'amour de Dieu. Ne gardons pas ce trésor pour nous, mais partageons-le avec joie. Ouvrons-nous sur le monde, ne restons pas renfermés sur nous-mêmes. L'Église, frères et sœurs, n'est pas un club privé, mais elle doit être ouverte sur le monde. Réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous pour le salut des perdus. Nous continuons dans les paraboles de Jésus. Une autre lecture, et c'est la suite, nous poussant aussi à la réjouissance. Nous lisons toujours au chapitre 15, à partir du verset 8. Jésus dit ceci, « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ?» Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Par cette parabole, je désire nous poser la question suivante. Avons-nous de l'intérêt les uns pour les autres? Nous occupons-nous de nos frères et sœurs? Avons-nous de l'intérêt pour leur quotidien, pour leurs soucis? Prenons-nous soin les uns des autres? Ceci n'est pas pour nous occuper des affaires des autres par curiosité malsaine, non. Si nous apprenons que quelqu'un est dans le besoin parmi nos frères et sœurs, quelqu'un d'entre nous aurait perdu son emploi, par exemple, comme cela m'est arrivé, quelle joie de savoir que des frères et sœurs dans la foi s'inquiètent pour votre vie et prient, intercèdent, vous assistent, vous aident. Sommes-nous prêts à porter du réconfort et assistance à celui qui est dans le besoin? Nous disons que nous faisons partie de la famille de Dieu, nous le chantons. Mais le vivons-nous au quotidien? Savons-nous pleurer avec ceux qui pleurent? Rire avec ceux qui rient? Avons-nous cet amour véritable en nous? Notre cœur est-il assez grand pour contenir l'amour et l'assistance que nos frères et sœurs dans la foi ont droit à avoir? Cette femme, dans cette parabole, a perdu de l'argent. Pour elle, cela est important, cela représente une somme importante. Il faut qu'elle retrouve son argent. Elle met toute son énergie pour le chercher. Je me souviens être plus ou moins dans ce cas, perdre mon emploi et mettre toute mon énergie, remuer ciel et terre pour retrouver du travail, rechercher dans les annonces, sur Internet, dans les journaux, sur le site du Forum, me mettant en prière, demandant l'aide de mes frères et sœurs pour l'intercession. Recevoir la compassion des amis, cela est important. Être ensemble dans la lutte et la prière, quelle belle unité! En ce qui me concerne, Dieu a répondu favorablement. Il a ouvert une porte inespérée, et je peux en témoigner. Mes frères et sœurs qui m'ont soutenu dans la prière se sont réjouis de cette réponse favorable que j'ai reçue. Pouvons-nous nous réjouir comme le demande cette femme, car elle a retrouvé sa drachme? Elle appelle ses amis et demande qu'ils se réjouissent avec elle. Quand nous prions pour nos frères et sœurs, intercédons avec amour et compassion. Réjouissons-nous quand Dieu répond favorablement. Apportons vers notre Dieu toute la louange, parce que le Seigneur a ouvert les écluses des cieux, apportant la bénédiction sur un de nos frères ou sœurs. Ne soyons pas égoïstes, mais soyons remplis de joie pour les autres. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous avec les autres. Réjouissez-vous pour les autres. Cela s'appelle, frères et sœurs, la communion fraternelle. Voici une autre raison de nous réjouir dans le Seigneur. Voyons la troisième parabole, probablement la plus connue. Nous trouvons cela dans l'évangile de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'attraper ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, « c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Apparemment, de prime abord, il n'y a rien de réjouissant dans ce texte. Un fils quittant son père, vivant ensuite dans la débauche. Après, il est complètement ruiné, affamé, misérable. Un vrai clochard. Quelle descente aux enfers. Chers amis, n'est-ce pas l'image du chrétien quittant le chemin du salut? L'Église étant trop rigide pour lui, on en a ras-le-bol de suivre les Écritures. Mais Dieu le Père est bien trop exigeant. Il faut vivre avec son temps. Balayer tous les principes moraux. Ayons les yeux ouverts sur la modernité, vivons à notre guise, ne nous embarrassons pas de tous ces principes bibliques qui sont vieux jeux. Vivons une vie chrétienne sans contrainte, de liberté de toutes sortes. À nous la vraie liberté. Et comme ce fils dans la parabole, vivons loin du Père. Vivre sans contrainte, voilà le choix de certains chrétiens. Terminer les réunions, terminer la lecture de la parole de Dieu, terminer le moment de prière, vivons comme bon nous semble. Et comme lui, quand on a goûté à tout, on a vécu à notre guise, on se retrouve au bord du chemin misérable et nu. Sans paix, sans joie, repensant au beau moment vécu dans la communion avec les frères et sœurs au sein de l'Église. Alors, comme ce jeune homme, revenons vers le Père. Mais va-t-il me recevoir, pensez-vous? Mais bien sûr. Ce père d'amour n'attend qu'une chose, que tu reviennes à lui, si telle est votre situation aujourd'hui. Ce père est prêt à accueillir celui qui vient, repentant à sa rencontre. Et je peux vous assurer, c'est la fête, car un pécheur revient. Et dans cette famille, la réjouissance était totale. Sauf pour une personne, le fils aîné, le fils parfait. Je dirais même le fils frustré quelque part. N'ayant jamais rien commis de mal, il est bien pensant. Malheureusement, dans nos églises, nous avons des chrétiens ne sachant pas se réjouir quand un membre de la communauté revient repentant. Oh, il y a des propagistes ne comprenant pas ni n'acceptant pas qu'à un moment donné, quelqu'un peut chuter malheureusement et se perdre pour un temps. Bien souvent, nous sommes plus durs que Dieu. Nous n'acceptons pas ce genre de choses. Nous mettons en quarantaine ce chrétien repentant. Nous jugeons, nous méprisons. Le père du fils prodige a rendu de suite le statut de fils à ce garçon et s'est réjoui de son retour. Frères et sœurs, de quel droit repousserions-nous un chrétien repentant si le Seigneur le reçoit et lui redonne son statut de fils? À plus forte raison, nous qui sommes de simples humains, devons-nous ouvrir nos bras et nos cœurs et nous réjouir du retour sur le droit chemin de ce chrétien repentant? Réjouissez-vous toujours. Nous tous, nous jugeons trop facilement nos semblables au lieu de nous réjouir. Nous sommes aigris et nous sommes étonnés que l'œuvre de Dieu est freinée. Mais notre attitude freine le travail de Dieu. Nous ne savons pas nous réjouir, comme on se réjouit au ciel quand un pécheur revient. Car pendant que nous critiquons ou jugeons les autres, le ciel est en fête, les anges se réjouissent. Réjouissez-vous toujours. Réjouissons-nous de voir des pécheurs venir à la repentance. Réjouissons-nous pour les réponses aux prières, quand nos recherches sont exaucées. Réjouissons-nous pour ceux qui se sont arrêtés sur le chemin et qui reviennent repentants à Dieu. Réjouissez-vous. C'est un ordre que Dieu donne à son Église. Et ces trois exemples de réjouissance ne sont pas limités, frères et sœurs. Je vous demanderai d'accomplir un petit exercice. Réjouissez-vous et notez le motif de votre réjouissance, et vous verrez que ces motifs sont nombreux. Comptez les bienfaits de Dieu, mettez-les devant vos yeux, et en adorant, vous verrez qu'ils sont nombreux. Réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, apprends-nous à nous réjouir pour tous tes bienfaits. Apprends-nous à nous réjouir pour les perdus venant à la repentance. Apprends-nous à nous réjouir en voyant les réponses favorables aux prières de tes enfants. Mon Dieu, ôte l'égoïsme de nos cœurs. Mon Dieu, nous voulons nous réjouir pour tout ce que tu fais pour ton Église. Reçois notre adoration et notre louange. À toi, toute la gloire. Amen.
Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. route glissante, tu chancelles sous la croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras. Sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras.
Chers amis, notre culte se termine. Si vous le désirez, vous pouvez visiter le site des communautés de Herstal-Sherat. C'est notre amie Florence Pitz qui en est l'orateur aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre culte audio. Maintenant, recevons la bénédiction de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et avec ceux que vous aimez, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.